20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On le sait, le fameux papyrus attribué à Artémidore d'Éphèse est un faux, et cela même s'il fut acheté pour plus de 2 millions d'euros par une banque de Turin. On le sait aussi, plusieurs fragments des manuscrits de la Mer Morte exposés à Washington étaient des contre-ouvés, une falsification, œuvre probable de filou, voire d'escroc. En revanche, le papyrus ptolémaïque provenant de l'antique cité d'Oxyrhynchos est bien authentique. Et pour cause, qui aurait eu l'idée de falsifier un texte portant sur les désagréments de l'ivresse, la gueule de bois qui sévissait dans l'Égypte du IIe siècle de notre ère? En cette période de fête, oublions les maux de tête, la nausée, pour nous pencher sur les alcools et ce que but une Gaule assoiffée. La place de l'alcool dans les sociétés anciennes peut être approchée de bien des manières. Mon invité lui a justement consacré sa carrière. Fanette Lobenheimer, bonsoir.
Bonsoir.
Incontournable spécialiste de la Gaule romaine, directrice de recherche émérite au CNRS, habituée du magazine d'archéologie de France Culture, vous avez notamment érigé un beau musée consacré aux amphores sur vos fouilles de Salelles-d'Aude, mais aussi publié « Boire en Gaule » aux éditions du CNRS, et tout récemment un ouvrage sur vos propres origines, celle des brasseurs Lobenheimer à Nérac, publié aux éditions d'Albret. Nous en reparlerons. Fanette Lobenheimer, contrairement aux recherches américaines portant sur les alcool studies, nos sciences de l'homme et de la société semblent curieusement s'être peu penchées sur la place de l'alcoolologie. C'est pourtant un thème qui en dit long sur les sociétés.
Tout à fait, et en particulier sur la société gauloise. La société gauloise n'écrivait pas, comme vous savez, donc on n'a pas de témoignage direct des Gaulois nous parlant de leur boisson. En revanche, les visiteurs étrangers, comme Diodore de Sicile, au 1er siècle avant notre ère, écrit à propos des boissons des Gaulois « C'est pourquoi les Gaulois, privés de ces fruits, les raisins et les olives, préparent avec de l'orge une boisson qu'ils appellent zitos, c'est-à-dire la bière, et ils boivent aussi de l'eau avec laquelle ils nettoient leurs rayons de miel, c'est-à-dire l'hydromel. Les Gaulois sont amateurs de vin à l'excès et se gorgent de vin pur apporté dans leur pays par des marchands. » Ce vin pur, c'est quelque chose qui a fait croire que les Gaulois étaient des gros buveurs et des buveurs, mal élevés aux yeux des Romains ou des écrivains grecs parce qu'ils buvaient le vin pur. Mais imaginez, les Gaulois dont la boisson nationale est la bière, ils ont toujours bu la bière pure. Donc quand on leur apporte du vin, ils le boivent avec la même pratique, c'est-à-dire pure. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont des soudards, comme on a bien voulu nous le faire croire.
Il y a près de 9 millions d'années, une mutation apparue chez des préhumains leur permet de métaboliser l'alcool éthylique. Quelles sont les plus vieilles productions d'alcool au monde ? La Chine, l'Inde ?
La Chine et l'Inde, bien entendu, mais aussi la Mésopotamie, voire l'Égypte. Très récemment, on a trouvé quelque chose de nouveau en Israël. Je vous laisse la parole.
Oui, justement. En Israël, donc, une très jolie découverte. On aurait trouvé une production de bière il y a 13 000 ans à peu près, donc dans une société qu'on appelle les Natoufiens.
C'est ça, dans la région de Haïfa. Et cette découverte est tout à fait exceptionnelle parce que on doit rappeler que pour faire de l'alcool, il faut naturellement du sucre, de la fermentation. C'est une chose qu'on obtient assez facilement avec les raisins, qui sont naturellement sucrés, ou avec le miel, auquel on ajoute de l'eau, pour faire de l'hydromel. En revanche, faire de la bière, c'est tout un autre processus, et qui demande une réflexion différente. Le grain d'orge, qui est généralement utilisé, n'est pas sucré. En revanche, les hommes ont observé, et ça c'est une découverte remarquable, que lorsque l'orge germe, à ce moment-là, il y a des diastases qui vont dans le grain d'orge transformer l'amidon en sucre. Et ce grain d'orge, si on le grille, c'est-à-dire si on stoppe sa croissance et qu'on le réduise en farine, on va obtenir une farine sucrée qui va permettre de faire un liquide fermenté qui sera la bière. Donc c'est un processus particulièrement réfléchi et qui montre que si les Natufiens le connaissaient déjà vers 13 000 avant Jésus-Christ, c'est peut-être que la sédentarisation était déjà là ou qu'ils ont, je ne sais pas comment, découvert ce phénomène.
En tout cas, les chercheurs parlent de bière, mais disent que cela aurait été une sorte de soupe.
Oui, la bière est souvent prise comme presque un aliment. On parle de pain de bière en Égypte. La bière est nourrissante. C'est un breuvage épais. Quand on refait de la bière de façon antique, ça ressemble à un horrible café au lait comme couleur. Ça n'a pas de bulles et c'est souvent plein d'impuretés. Donc il faut la filtrer. Mais c'est nourrissant. Ça, il faut le retenir.
Revenons à cette découverte donc israélienne vieille de 13 000 ans. Si cela est vraiment le cas, nous voici devant une production d'alcool avant l'émergence de l'agriculture?
D'après ce que nous savons aujourd'hui, oui. Mais comment, je n'imagine pas bien comment des hommes ont pu, s'ils n'avaient pas encore inventé l'agriculture, faire germer ces grains et découvrir qu'une fois germés, ces grains comportaient du sucre. À mon sens, ça veut dire que l'agriculture était naissante.
Donc, on n'aurait pas pu faire ça, par exemple, avec des plantes sauvages?
Bien sûr qu'on a pu le faire avec des plantes sauvages et de l'orge sauvage, si vous voulez, ou même des grains comme de l'épeautre. Mais ça demande du temps, ça demande de la stabilité pour semer, faire germer et ensuite griller.
Certains chercheurs, d'ailleurs, vont même encore plus loin, puisqu'ils pensent que c'est l'alcool qui aurait conduit les hommes à se sédentariser, puis ensuite à développer l'agriculture.
Ça, c'est une très jolie théorie. Je pense que les hommes ont d'abord eu soif et besoin de boire, tout simplement. Or, toute eau n'est pas bonne à boire. Et ils ont très vite eu l'intention de chercher des boissons qui étaient saines et qui leur permettent de boire sans être malades. D'où les boissons fermentées.
Et vous ne pensez pas que ces chercheurs vont trop loin dans la théorie?
Peut-être.
En tout cas, d'autres chercheurs y voient déjà une affirmation de la différenciation du champ social. La bière, pour des sortes de proto-élites, en quelque sorte, il y a 13 000 ans.
Oui, la bière a souvent été une boisson de chef. On en a des exemples dans la péninsule ibérique où un roi ibère, par exemple, boit de la bière dans des coupes d'or et d'argent. Ce qui étonne beaucoup les observateurs grecs ou romains. Mais la bière était une boisson de chef aussi.
Mais toutes les boissons alcoolisées ont, semble-t-il, été des boissons de chef?
Complètement. On le sait aussi pour l'hydromel, dans la tombe de Hochdorf, où on a retrouvé un fameux chaudron plein de 300 litres d'hydromel. C'est clair qu'il s'agissait de l'enterrement d'un chef puissant et qu'à cette occasion-là, on allait boire de l'hydromel, ce qui n'était pas n'importe quelle boisson.
Justement, dans nos régions, la place de l'hydromel est capitale. Un produit alcoolisé, mais aussi sucré. Le miel est alors le seul apport de sucre à la disposition de ces sociétés qu'on appellera proto-historique?
Certainement, et je pense que l'invention de la boisson fermentée qui a été l'hydromel, c'est peut-être la première des boissons qu'on ait inventées, avant même la bière, est probablement due à une trouvaille, une rencontre tout à fait par hasard de l'eau et du rayon de miel. Donc une pluie, quelque chose comme ça, et quelqu'un goûte ce mélange qui a fermenté et le trouve bon et sain.
Il y a une très belle peinture, un très beau dessin d'art rupestre en Espagne, dans une grotte qui représente justement ce miel.
Oui, tout à fait. On voit un personnage qui est tout à fait en équilibre sur la façade d'une paroi et qui est en train de récolter du miel, probablement pour en faire une boisson ou consommer du sucre.
Et 7000 ans avant notre ère, donc c'est quand même très ancien aussi.
Absolument. Ouais.
Vers 1500 avant notre ère, une jeune Danoise est, elle, trouvée inhumée avec de l'hydromel.
Oui. Dans son cercueil, il y avait un récipient en bois, en bouleau, qui était plein de traces d'hydromel que l'on a pu repérer. Donc, même une femme a droit à une boisson alcoolisée, et une femme d'un certain rang, puisqu'elle a des offrandes aussi importantes que de l'hydromel, et en grande quantité.
Ce miel, nous le savons, par Diodore de Sicile, est très recherché. La tombe princière d'Ordov, par exemple, est probablement le meilleur cas trouvé par les archéologues?
Tout à fait, parce que le fameux chaudron de Hochdorf, donc on est vers 500 avant Jésus-Christ, si je me rappelle bien, était plein aux trois quarts, donc contenait 300 litres d'hydromel. Hydromel qui était fait avec des plantes aromatiques, dont du thym, et probablement une production d'été pour laquelle il a fallu utiliser plusieurs essaims de miel pour faire une telle quantité d'hydromel. Et cet hydromel était bu dans des cornes de grande contenance, plusieurs litres, qui pouvaient être partagés de façon collective.
Là, on est vraiment dans l'ostentatoire. C'est une tombe absolument extraordinaire qui a été trouvée maintenant, il y a déjà quand même pas mal d'années. Mais c'est une très très grande découverte, hein, cette tombe d'Ohrdorf.
Complètement, complètement. Et elle nous intéresse parce qu'on a pu identifier l'hydromel, parce que c'est quelque chose de très difficile de trouver des restes d'hydromel. En revanche, on sait que dans des tombes similaires, et on peut penser à celle de Lavaux dans l'Aube, qui contenait un chaudron aussi magnifique, mais ce chaudron, lui, était plein de vin. Donc ça, grâce au progrès de l'archéologie, on peut maintenant identifier les contenus.
On fait comment ? Une sorte de chimie ?
C'est une sorte de chimie, mais il faut d'abord avoir des dépôts. Des dépôts sur les parois qui nous permettent, par des procédés chimiques, d'identifier les traceurs du vin ou les traceurs du miel, ou les traceurs de la bière qui sont plus difficiles à identifier parce que la bière contient beaucoup d'eau.
Revenons par exemple à l'hydromel. Est-ce que l'on connaît des recettes ? Les recettes sont en général assez rares en archéologie.
Elles sont assez rares, mais plusieurs auteurs latins nous en parlent et nous disent que pour faire de l'hydromel, il faut prendre de l'eau de pluie, la garder 40 jours, y mettre 2/3 de miel et ensuite on va laisser mûrir tout ça pendant un certain temps. Puis on va le filtrer. Il se trouve que dans le miel, on va avoir naturellement tous les éléments pour que la fermentation se fasse de façon tout à fait naturelle. Et ainsi, on utilise ces recettes-là pour faire du miel. On en a plusieurs dans l'Antiquité. J'en connais au moins 3, mais elles sont toutes équivalentes. C'est toujours 2/3 d'eau, 1/3 de miel. Et c'est toujours cette eau très très pure que l'on recherche. C'est pour ça qu'on parle d'eau de pluie. Et on a même trouvé, c'est en Allemagne, une amphore fabriquée dans la région lyonnaise qui contenait de l'hydromel. Et cet hydromel, il est décrit comme étant stilisticum, ça veut dire qu'il coule goutte à goutte, parce qu'on l'a fait avec de l'eau de pluie qui coule goutte à goutte.
Fannette Lomenheimer, nous parlions tout à l'heure d'Israël, mais qu'en est-il par exemple en Chine ? Que produit-on en Chine ? Et on produit aussi visiblement des choses assez tôt.
On a produit de la bière de riz vers 7000 avant Jésus-Christ et on a des bas-reliefs qui nous montrent des brasseries qui sont tout à fait intéressantes et qui montrent cette activité très fréquente dans la Chine très ancienne, tout à fait. Donc le grain a aussi servi à faire ce genre de boisson.
Et en Égypte ancienne aussi, on a visiblement de la bière ?
Alors l'Égypte ancienne a connu très très bien la bière, comme la Mésopotamie. On connaît des brasseries en Égypte qui ont comme caractéristique d'avoir de l'eau, d'abord, d'avoir des espèces de grandes marmites en terre cuite pour brasser la bière, c'est-à-dire la tourner et la mélanger avec les céréales, et ensuite un système de chauffage pour faire chauffer le mélange.
Et on la boit au chalumeau, avec une paille.
On la boit au chalumeau, alors on la boit de façon collective, elle est souvent mise dans des espèces d'amphores, qui ont au bout de leur embouchure, côté liquide, une passoire en bronze qui permet de filtrer tous ces éléments qui sont restés dans la bière, qui est assez grossière. On a parlé de pain de bière tout à l'heure. Donc
et de soupe.
Elle est pleine et de soupe et de bouillie. Donc, avec ces chalumeaux à passoire, on peut boire plus agréablement.
Le chalumeau, c'est une sorte de grande paille, en fait.
Oui, c'est une grande paille. Et ça se fait collectivement, plusieurs chalumeaux à la fois dans la même amphore. Et c'est Xénophon, un grec, qui nous dit que lorsqu'il est dans l'actuelle Turquie, il a découvert cette boisson qu'est la bière, qu'on boit au chalumeau. Et pour un grec, il dit finalement, c'est pas si mal que ça.
Deux exemples de brasseries sont particulièrement remarquables en Europe. Bien sûr, la première, Vindolinda en Angleterre, qui est un site absolument majeur sur le mur d'Adrien, mais aussi Ratisbonne en Bavière.
Tout à fait. Ce sont deux brasseries complètement différentes. Celle de Vindolinda est tout à fait intéressante parce que Vindolinda, c'est un camp romain à la frontière de l'Écosse. Et les soldats ont besoin de boire et de boire beaucoup de bière. Visiblement, ce sont des soldats qui sont recrutés dans les provinces du Nord. Donc on voit des importations de bière à Vindolinda, On le sait par les fameuses tablettes de bois qui sont inscrites et qui ont été conservées.
Miraculeusement.
Pour notre plus grand bonheur, dans un milieu boueux et humide. Et donc, on voit arriver des quantités d'orge et des choses comme ça qui sont nécessaires pour la bière. Et en même temps, il y a carrément une brasserie avec tout l'arsenal pour la fabrication de la bière. Celle de Ratisbonne est très bien conservée aussi, l'architecture est parfaite et de nouveau on trouve de l'eau, un foyer et des grandes jarres pour fabriquer la bière.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Fanette Oppenheimer, nous avons aussi de ces brasseries à l'époque gauloise en France ?
C'est très difficile à dire, on a beaucoup de séchoirs qui sont peut-être des séchoirs à viande ou des séchoirs à céréales qui justement auraient pu servir à faire sécher l'orge. On n'a pas encore trouvé un ensemble cohérent entre séchoirs, foyers, arrivées d'eau, si j'ose dire. En revanche, on sait qu'on a des marchands de bière, des cervésiaires, notamment dans la région lyonnaise. Et on sait aussi que plusieurs vases contiennent de la bière. Ce sont des vases de la fabrique de Banassac dans le Tarn sur lesquels on voit « bois de la bière et sois heureux » et des inscriptions de ce genre-là. Donc des coupes qui servent à boire de la bière.
Vous me parliez tout à l'heure du camp romain de légionnaires à Vindolanda. Moi, je croyais que c'était le vinaigre qui était bu par les légionnaires.
Alors, on boit aussi du vinaigre, mais c'est surtout, je pense, les populations plus méridionales qui boivent du vinaigre. Alors, ce vinaigre, ça n'a rien de mauvais. Rappelez-vous que le Christ sur la croix demande à boire et qu'un soldat romain lui tend une éponge imbibée de vinaigre. En fait, ce vinaigre, c'est de la posca. C'est un mélange d'eau et de vinaigre et qui est très désaltérant et que l'armée romaine buvait très généralement. Donc il est très possible qu'à Vindolanda, on ait bu aussi de cette boisson de la posca, ou pas. Et on sait aussi qu'il y avait des amphores à vinaigre qui étaient exportées.
Fanette Oppenheimer, vous appartenez à une famille de brasseurs alsaciens. Cela a-t-il joué un rôle dans vos propres recherches?
Alors là, vous venez me chercher dans mes retranchements. Et il se trouve que j'ai écrit ces deux derniers livres dont nous parlions de façon très clandestine. C'était pas du tout dans mon objectif de recherche. Il y a 30 ans que je travaille sur le vin et je pensais continuer à travailler sagement sur le vin quand des opportunités sont venues et m'ont fait travailler sur la bière, ce qui m'a absolument passionnée. Sur l'histoire de ma famille, évidemment, parce que cette famille, on savait pas très bien, ou du moins je ne savais pas, étant enfant, née pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était très difficile que l'on nous dise que notre origine était allemande, dans le sud-ouest de la France. Donc la famille a toujours dit sagement que notre origine était alsacienne. Et quand j'ai commencé des recherches sur cette brasserie, je me suis rendu compte que l'origine était parfaitement allemande, au sud de Mayence, et que c'est pas un cas isolé de voir un jeune allemand quitter sa petite ville natale de Schwarzbourg pour aller s'installer dans le sud-ouest de la France et fabriquer de la bière. Nombreuses sont les familles allemandes, protestantes et brasseurs qui ont émigré vers la France et qui ont transformé la consommation des boissons en France en faisant de la bière une boisson qui redevenait boisson nationale en quelque sorte.
Ah, c'est étonnant. Tout ça est lié à l'annexion d'une partie de l'Allemagne durant le Directoire et puis l'implantation familiale donc dans le Lot-et-Garonne à exactement Nérac. Tout ça est aussi lié à une histoire du protestantisme ?
Je le crois parce que mon fameux ancêtre Johannes Lobenemer, lorsqu'il demande son permis de voyager, c'est un véritable passeport, demande à aller vers Toulouse, qu'il gagne peut-être à pied, en diligence, je ne sais pas, et de là va aller à Montauban. Montauban est une ville protestante très bien connue, et de Montauban où il se marie, il va aller à Nérac, à 80 km au sud à peu près, autre ville tout à fait calviniste depuis l'époque de Jeanne d'Albret et d'Henri IV. Et les autres cas que je signalais, d'autres familles qui vont, cette espèce de club de brasseurs protestants émigrés en France, vont se marier entre eux beaucoup. Et dans le cas de notre famille, ce sont des mariages avec des gens de Lyon, de Roanne ou d'Angoulême. Et le cas n'est pas du tout rare.
130 ans entre 1828 et 1958, c'est un pan de l'histoire de la révolution industrielle. Vous avez suivi l'évolution des procédés et des progrès, par exemple, de machinerie. Bien sûr, la diffusion qui va petit à petit s'étendre. C'est drôle, dans le Lot-et-Garonne, la bière. Puis ensuite, 1958, le tout s'effondrant.
Alors au début, effectivement, le premier Johannes qui arrive, il a 26 ans quand il commence à faire de la bière à Nérac, c'est pas du tout une boisson habituelle, et il n'a pas d'argent, il est très pauvre, et il va faire sa bière dans un chaudron de nouveau, dans une grange. Et puis, à force de travail, il va commencer à faire connaître sa bière et il va avoir un succès de plus en plus grand jusqu'au point où il va demander au futur baron Haussmann, qui est alors sous-préfet de Nérac, l'autorisation de construire une maison et une brasserie. Et cette maison va être une maison énorme, avec fronton, colonne, la brasserie est très vaste. Et donc ce personnage, à la fin de sa vie, il va mourir peu après de 60 ans, est déjà un personnage remarquable de la ville, très très bien connu. Et puis son fils Théodore va faire encore plus. Et là, on arrive dans la fin du 19e siècle, cette période si intéressante où il faut que Théodore se défasse d'une partie de ses terres de la brasserie pour laisser passer le train qu'on est en train de construire pour aller jusqu'à Nérac. Il faut en même temps que la brasserie se transforme et utilise des machines à vapeur. On va aussi faire des machines à glace. Et puis le fils de Théodore, André, va à son tour élargir encore la brasserie en y adjoignant une malterie.
Et la limonade.
Et la limonade, bien entendu. Et même le Coca-Cola qu'ils appelaient Zambacola.
Ce que vous avez fait, c'est une sorte d'archéologie d'une entreprise?
C'est à peu près ça, archéologie d'une entreprise et histoire d'une famille aussi, la façon dont la famille s'inscrit dans le paysage de Nérac. Ce qui est très touchant, c'est de voir aujourd'hui que cette brasserie a été détruite. Il n'existe plus que les grandes maisons qui ont été construites autour de la brasserie. Mais elle est très forte dans le souvenir des Néraquais. Et quand le livre est paru cette année, accompagné d'une exposition, les Néraquais ont été extrêmement sensibles au fait de retrouver leur patrimoine et de voir des images de cette entreprise de fin 19e, début 20e, enfin jusqu'après les années 50, dans toute son ampleur.
J'en reviens aux temps les plus anciens. La levure, ce champignon microscopique, est indispensable pour la fermentation de la bière. Il aurait donc été maîtrisé dès 13 000 ans, voire durant le néolithique en Europe.
Pas du tout, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Si on fait de la bière sous un toit de chaume, par exemple, eh bien le toit de chaume comporte lui-même beaucoup de levure. Et les levures vont tomber directement dans la bière sans qu'on ait besoin de les choisir ni de les élever comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les levures sont absolument sélectionnées. Mais dans le temps, c'était pas du tout le cas.
En France, en Europe, la bière apparaît à peu près à quelle époque? Je crois qu'on a des choses un peu en Espagne qui auraient
alors,
été trouvées.
Oui, parmi les plus anciennes traces, on a quelques grottes dans la région de Marseille où il y a des traces d'orge qui a été germée et qui a été grillée. Et puis, il y a, vers le 3e siècle avant notre ère, des importations d'amphores à bière qui viennent de Catalogne et qui sont bues dans la région de Narbonne en particulier. Les fabrications même et les brasseries, après, on a beaucoup plus de traces d'après les gobelets dont je parlais tout à l'heure ou les marchands de bière que des brasseries elles-mêmes.
Reste l'emballage. La bière est-elle au tonneau ce que le vin est à l'amphore?
Pas forcément. Pas forcément parce que, on vient de le voir, la bière a été contenue aussi dans des amphores, ce qui est très curieux. Mais pour la fabrication des amphores en Gaule, ça c'est un domaine que je connais et je peux affirmer qu'il n'y a pas d'amphore à bière en Gaule. On n'a jamais fait d'amphore pour mettre de la bière dedans. En revanche, on a conçu des tonneaux très tôt dans le temps, dès le 1er siècle avant notre ère et tout le Haut Empire aussi. Et il est très probable que nombre de ces tonneaux aient été utilisés pour transporter de la bière vers les camps militaires notamment, et pas forcément du vin courant.
On a souvent dit que le tonneau était une invention gauloise. Visiblement, il n'en serait rien.
Si, moi je suis plutôt favorable à cette idée. On est très sensible à la civilisation du bois chez les Celtes. Et le tonneau est vraiment l'emballage en bois que l'on peut faire dans les pays non méditerranéens où les forêts sont nombreuses. Et puis c'est un emballage intelligent, beaucoup plus intelligent que l'amphore, parce qu'il ne se casse pas, parce qu'il roule, parce qu'il s'empile, qu'il est réutilisable. Enfin, il a beaucoup d'avantages.
L'arrivée du vin va-t-elle supplanter la bière ? En Gaule.
Alors si on parle des périodes anciennes, la bière était vraiment la boisson nationale, parce que quand on fait de la bière, on en fait des litres et des litres, beaucoup plus que de l'hydromel. Donc visiblement, la bière a été traditionnellement bue dans toute la Gaule et même avant qu'elle ne s'appelle la Gaule. En revanche, du vin, il n'y en avait pas du tout. Et les tout premiers vins sont arrivés avec les importations grecques par Marseille vers 600 avant Jésus-Christ, mais c'est extrêmement peu et c'est réservé aux chefs. On va avoir beaucoup plus de vins avec les importations d'Italie à partir de la fin du 3e siècle et au 2e et 1er siècle avant notre ère. Et c'est là que le vin va être reçu aussi par les chefs gaulois comme une boisson remarquable, une boisson de riche, une boisson qu'on donne à sa clientèle et qu'on ne consomme que lors des grands festins plébiscitaires menés par les chefs gaulois. Et ce vin n'est pas la boisson nationale. Il est rouge, il a un gros effet sur les populations qui le boivent pur alors qu'il est très épais. C'est pour ça que les Latins et les Grecs le buvaient coupé d'eau. Qu'il a probablement entêté les Gaulois à de nombreuses reprises. Mais encore une fois, ça n'était pas la boisson nationale.
On a une idée du volume de vin qui a été transporté de l'Italie vers la Gaule indépendante ?
Oui, on peut parler de millions d'amphores, c'est un marché extraordinaire. Les Italiens, à ce moment-là, avaient besoin essentiellement d'esclaves et de métaux. Et donc, ils sont venus en Gaule avec comme échange, monnaie d'échange, des amphores à vin qu'ils vendaient très cher, puisque, nous dit-on, ils échangeaient une amphore d'une vingtaine de litres contre un esclave.
Ne me dites pas que quand même la Gaule a été vaincue par le vin.
La Gaule a adapté le vin. La Gaule a bu du vin, mais elle a su très rapidement, avec la colonisation romaine, acclimater les vignobles et se mettre à produire elle-même beaucoup de vin, dans le Midi d'abord, dans l'ensemble du pays ensuite. Et les Gaulois se sont révélés être d'excellents viticulteurs.
Donc on doit rendre justice aux Gaulois, qui n'ont pas été seulement que des grands buveurs, mais aussi d'excellents viticulteurs, par la suite du moins.
Ah mais tout à fait, puisque si l'on feuillette l'agenda du temps, passons au 1er siècle après Jésus-Christ, et surtout au 2e, l'Italie à ce moment-là n'est plus beaucoup productrice de vin. En revanche, Rome, à la population très abondante, a besoin d'importer du vin, et c'est le vin gaulois que l'on va boire en Italie à ce moment-là.
Vous avez étudié pendant très longtemps le site de Saleldaude, qui produisait des amphores que l'on retrouve dans le monde entier avec de la piquette, entre guillemets, locale.
Alors, je vous corrige tout de suite sur piquette. Il y a effectivement un vin gaulois qui s'appelle piccatum. On a envie de dire, évidemment, c'est de la piquette. Eh bien, pas du tout. C'est un mot qui vient de pix, qui veut dire la résine en latin. Et donc, ce vin, c'est un vin qui est dans des amphores qui sont résinés pour être étanche, donc il prend le goût de la résine. Et d'autre part, nous disent les auteurs anciens, certains cépages, notamment dans la région de Vienne, dans la vallée du Rhône, avaient un goût naturel de pois. Ce vin est exporté très largement dans le monde romain, essentiellement pour alimenter les armées et plutôt, je dirais, les généraux et les officiers, le bon vin voyageant en amphore, le vin courant pour les soldats voyageant en tonneau. Ce vin va largement à Rome où l'on a idée des prix et il est souvent très cher. Et au-delà, il va dans l'ensemble, mais en quantité beaucoup plus restreinte, dans l'ensemble du monde de l'Empire romain et même au-delà, donc jusque en Inde, en Éthiopie, au Yémen, enfin dans toutes ces régions si lointaines.
Fanette Oppenheimer, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez publié « Boire en Gaule » aux éditions du CNRS et tout récemment « La brasserie Oppenheimer » à Nérac aux éditions d'Albret, que nos auditeurs peuvent aussi visiter votre très beau musée consacré aux amphores à Salelles d'Aude. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie Lepeintre, et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. Pour ouvrir l'année, le magazine d'archéologie de France Culture se consacrera la semaine prochaine à l'archéologie du bout du monde, l'Armorique.